Bonjour à tous. Alors, merci de m'appeler Pasteur Marc, Pasteur Cheryl. Oui, c'est mon rôle. Je suis le pasteur, enfin, le pasteur parmi une équipe de trois pasteurs. Si vous connaissez mon rôle, c'est bien, mais vous pouvez m'appeler Marc, tout simplement. Ma femme m'appelle Marc à la maison. Quand elle m'appelle Monsieur Debané, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui. Alors, donc, ce matin, nous poursuivons la série qu'on a commencée sur la prière visionnaire de notre famille d'Église, qu'on va relire. Je vais juste. Quand Dieu vient, ça, c'est le sujet de mon message de ce matin. Pourquoi? Parce que, voilà, la prière est ici. Alors, vous pouvez peut-être juste prier silencieusement pendant que je la lis. On pourrait la faire à l'unisson et on le refera à d'autres moments, mais cette fois-ci, juste prier avec moi, mais en silence. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, des disciples dynamisés par l'Esprit, des disciples axés sur la mission et des disciples capables de se multiplier partout. Amen. Amen. Et dans cette série de messages que Mélodie a commencé il y a deux semaines, on prend une section. Et cette semaine, c'était le mot « viens », qui est une prière. Dieu, viens, viens m'aider, viens, ô Dieu. Donc, un mot qu'on peut prononcer dans beaucoup de circonstances de prière. Et donc, comme on a dit, et on a circulé une série de méditations de chaque jour sur donc ces différentes parties de cette prière avec des textes suggérés. Et moi, ça m'a, j'ai été enrichi par ça. J'espère vous aussi. Donc, si vous avez un témoignage, vous pouvez m'écrire, ou à Mélodie, dire, ben moi, j'ai été béni par tel texte d'aujourd'hui. Et peut-être même tu peux dire, j'aimerais faire un petit partage à l'église dimanche prochain, quelque chose comme ça. Mais un des textes proposés pour la semaine qu'on vient d'avoir, c'est Néhémie 2, une portion au milieu de Néhémie chapitre 2 dans l'Ancien Testament. Et c'est un épisode vraiment intéressant de l'Ancien Testament où nous voyons Dieu qui vient dans la vie d'une personne ordinaire, comme toi et moi, et cette personne vient à jouer un rôle extraordinaire parce qu'elle est sensible à la présence de Dieu, à la venue de Dieu. On va lire le texte, mais je vous invite à prier avec moi encore une fois. Éternel, c'est vraiment une joie d'être ensemble, d'avoir adoré comme on vient de faire. Et chaque fois qu'on t'adore ensemble en musique, on te dit, viens Seigneur, viens dans nos cœurs, viens revivifier nos esprits peut-être endormis, viens raviver notre courage peut-être diminué, et ça nous fait du bien. Et on sait que c'est la musique, mais c'est surtout ton esprit. On te demande, Esprit, viens en chacun de nous pour qu'on puisse entendre ta parole, apprendre quelque chose, ramener chez nous une nouvelle idée qui va nous inspirer pour la semaine. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Où est mon texte? Ah oui, le voilà. Alors, Néhémie, donc, il est, on va l'expliquer par après, il est donc nouvellement arrivé à Jérusalem avec un groupe de personnes et ils sont là en mission pour reconstruire quelque chose qui a été détruit. Écoutons bien. À mon arrivée à Jérusalem, c'est Néhémie qui parle ici. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. OK. Drôle de nom. Et j'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur dis alors, « Vous voyez vous-même la malheureuse situation de Jérusalem. Elle est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis, je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. On parle du roi de Perse, je vais en parler tantôt. Et ils m'ont dit, ben, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Amen. Voilà le texte pour aujourd'hui. Dieu vient, mais en réalité, il est déjà là. Amen. Je me souviens au début de la pandémie. Est-ce que vous vous souvenez du mot « confinement » ? On était dans le confinement et j'avais bien de la misère à m'adapter au confinement. J'étais tout le temps dans la maison. Je m'inquiétais pour ma famille, pour le monde et pour l'Église aussi. Je sentais que je ne pouvais rien faire et j'étais enfermé. Et c'est comme si la pression montait dans la cocotte minute qui était à l'intérieur de moi. Un matin, je me réveille tôt, tanné du confinement. Et j'ai dit, oh, j'ai besoin d'air. Je me suis habillé sans réveiller personne. J'ai embarqué dans ma voiture et j'ai roulé. Je suis parti sur l'autoroute, sur un nowhere, comme on dit. Rouler. Et puis, je me suis retrouvé comme sur l'autoroute, mais dans une région agricole. Et ça m'a fait du bien. Je sentais que je commençais à respirer, à laisser sortir la vapeur de mes oreilles. Et je me suis arrêté au bord d'un grand champ. Je pense que c'était du colza, la plante qui poussait. Et c'était des petites pousses. Et à perte de vue, des rangées et des rangées de colza. En fait, j'ai stationné la voiture. Je me suis mis à me promener sur un chemin de fermier. Puis, à un moment donné, je me suis arrêté et je regardais le champ jusqu'à perte de vue des pousses de colza en rangée. Et j'ai senti une voix rassurante me dire dans mon cœur, avant le confinement et même durant le confinement, je fais pousser le colza. Avant le confinement et durant le confinement, même quand les humains ne peuvent plus agir, je fais pousser les chrétiens dans le monde entier. Je fais pousser aussi les églises, même quand les pasteurs sont bloqués dans leur maison. Et ça a toujours été comme ça depuis le début de mon œuvre. Alors, j'ai compris que c'est Dieu qui me parlait. Alors, c'est pas des paroles audibles que j'ai entendues, mais c'était un grand sentiment et ça m'a donné de la paix. Et ça m'a rassuré et ça m'a comme donné une vision pour retourner chez moi et continuer. Et on a persévéré dans le confinement. Mais notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il est grand, il nous dépasse. Et il est à l'œuvre, même quand nous, nous ne sommes pas vraiment impliqués dans l'œuvre, des fois parce qu'on ne peut pas, il est déjà à l'œuvre. Dans le texte qu'on a lu ce matin, Néhémie est en train de parler de son activité à Jérusalem. Et c'est vrai, on peut être impressionné par Néhémie. Wow! C'est un homme d'action, un homme de courage, un homme d'initiative, un psychologue pour convaincre les gens. Il y a du vrai là-dedans. Mais le livre, quand on le lit en entier, quand on le médite, on se rend compte que le personnage principal du livre de Néhémie, vous pouvez deviner c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Bravo, oui. Dieu est à l'œuvre et Néhémie, on voit qu'il est comme invité dans l'œuvre de Dieu qui est déjà en train de se passer. Néhémie apprend à se rendre disponible, puis ce qui est merveilleux, c'est sa foi. Il est prêt à obéir. Cette mission nocturne de Néhémie autour des murailles brisées de Jérusalem qu'on a lu, c'est une étape seulement dans un grand plan de Dieu auprès de la nation d'Israël. Un plan qui s'étend jusqu'à nous, nous qui sommes dans de nouvelles étapes, et même toi dans ta vie de tous les jours, tu vis des étapes du grand plan de Dieu pour réconcilier toute l'humanité, tout l'univers avec Dieu à travers Jésus-Christ. On en est rendu là, c'est le même Dieu. Et dans un sens, on peut regarder à Néhémie pour voir comment se positionner avec Dieu dans la prière. Et on va regarder vers Néhémie ce matin. Alors, une chose qui est belle dans le livre de Néhémie, et puis que je trouve c'est utile pour moi, puis je pense que ça l'est aussi pour toi, c'est un livre, puis ça c'est le commentateur Derek Kidner qui a apporté ça à mon attention. Le livre de Néhémie est plein de miracles de Dieu, d'interventions qui sont « wow ». Il ouvre des portes, mais vous savez, il n'y a aucun miracle spectaculaire dans le sens comme dans l'Évangile de Marc, comme une tempête qui se calme, comme on a vu la semaine passée. Il n'y a pas d'affaires comme ça. C'est toujours des choses subtiles, pourtant puissantes. Comme par exemple, dans le texte qu'on a lu, les responsables juifs à Jérusalem qui sont découragés, qui sont comme blasés, parce qu'ils ont eu des contretemps dans leur projet de reconstruction. Et miraculeusement, un nouveau venu arrive, c'est Néhémie, les convainc de retourner, rebâtir ce qui a été redétruit. C'est un miracle. Il y a plein de miracles comme ça. Et dans nos vies, c'est la même chose. C'est qu'il peut y en avoir des miracles spectaculaire. Mais la plupart du temps, c'est des miracles. Dieu va agir dans un cœur pour que tout d'un coup, une attitude change. Et puis là, il y a une porte qui s'ouvre pour peut-être inviter quelqu'un à participer à l'œuvre de Dieu. Et Néhémie, oui, il va supplier Dieu de l'aider à mais on voit qu'il croit vraiment dans ce Dieu qui est actif en tout temps. Actif même avant que Néhémie prie. Et toi, quel est ton cri vers Dieu? Dans quelle sphère de ta vie est-ce que tu demandes à Dieu de venir? Est-ce que c'est tes finances? Une question familiale, peut-être? Est-ce que c'est ton service à l'Église? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre que tu sens que Dieu t'a demandé de construire à long terme? Puis tu es dans une situation, Dieu, viens m'aider. Je veux te rassurer, il est déjà là. Il est déjà là. Ton problème, c'est aussi son problème. Et ce problème, il fait partie du plan de Dieu. C'est une étape. C'est, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Parfois, lui, il voit une opportunité pour un débouché positif. Là où toi, pour le moment, tu le vois comme un blocage. Donc, soyons confiants. Même si Dieu est silencieux, il est déjà là. Oui, il veut que tu le pries, mais quand il intervient, il va nous montrer qu'il prépare son intervention depuis longtemps. Il est déjà à l'œuvre, mais toi, t'embarques avec lui. Et je voudrais qu'on regarde ce matin comment... Comment Néhémie est sensible à l'action et à la présence de Dieu. Je pense que c'est important que c'est pas juste qu'on crie à Dieu quand ça va mal, mais qu'on devienne des gens conscients, sensibles à la présence et à l'action de Dieu. Avant, laissez-moi résumer le contexte du chapitre 1, parce que là, j'ai lu le milieu du chapitre 2, mais en fait, ce qui se passe, c'est que en 587 avant Jésus-Christ, donc il faut compter par en arrière, avant le zéro, quand Jésus est né, enfin à peu près, mais le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem, est complètement détruit par les Babyloniens, 587. Et eux, ils détruisent la ville, le temple, terrible, et ils forcent une grande partie de la population à aller en exil à Babylone. Des déportés forcés, vont à Babylone et dans des provinces de Babylone. Mais le prophète Jérémie, Dieu lui met à cœur de prophétiser que dans 70 ans, après ce désastre, qu'ils allaient revenir et reconstruire Jérusalem. Et c'est ce qui est arrivé, disons, en partie. Il y a eu une première vague qui est venue, 70 ans plus tard. Ils ont commencé à reconstruire. Et il y a eu d'autres vagues après ça. Et l'histoire de Néhémie se passe à peu près 150 ans plus tard. C'est quand même longtemps après. Mais Néhémie est quand même dans ce groupe d'exilés. Il est donc un descendant des exilés par les Babyloniens. Et lui, il a une job dans le palais du nouveau grand boss de la région, qui est l'empereur de Perse. Donc, il y a un nouveau empire qui est en charge, qui a conquis les Babyloniens, puis c'est les Perses. Et Néhémie, il est l'échanson du roi ou de l'empereur de Perse. L'échanson, c'est le goûteur des boissons. Alors, le voilà il est devant l'empereur de Perse avec une coupe. C'est le goûteur de toutes les boissons, surtout le vin. Alors, c'est un homme très important, un fonctionnaire vraiment stratégique pour le roi, un employé choisi avec soin, un homme de confiance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'échanson est-il si important? Est-ce que quelqu'un peut deviner? Oui?
C'est une tactique politique.
est tellement bien dit.
Veux-tu continuer ça?
Oui, c'est une tactique politique pour empêcher de se faire empoisonner. Alors, je me suis demandé s'il y avait des assurances-vie pour les échansons. Eh bien, probablement pas. Alors, il fallait être courageux et il fallait que le roi vraiment ait confiance en toi. Vraiment, mais sur un plan personnel. Pas seulement politique, mais personnel aussi, parce que c'est sûr que s'il y a un complot contre moi, et puis que, mettons, Jérémie, c'est mon goûteur, mais ils ont juste à s'arranger avec Jérémie, et puis je suis fini. Alors, voilà qu'un... En tout cas, vous comprenez que c'est un poste. Notre ami Néhémie avait vraiment accédé haut. Et une quinzaine d'années avant l'épisode qu'on a lu, il y a eu une nouvelle vague de retours d'exilés vers Jérusalem et leur but était de poursuivre la reconstruction de la ville détruite. Et un jour, le frère de Néhémie revient de Jérusalem visiter son frère au palais et Néhémie lui demande des nouvelles. Il a hâte de recevoir des bonnes nouvelles, mais c'est des mauvaises nouvelles. Tout ce qui a été reconstruit a été à nouveau détruit par les ennemis d'Israël. En plus, avec le soutien de ton boss, l'empereur, qui l'ont mis sous pression, quelque chose comme ça, et ils ont eu l'appui pour détruire ce que ceux qui sont retournés avaient reconstruit. Donc, retour à la case de départ, Néhémie est envahi de tristesse, de rage, et il se tourne vers Dieu. Il va passer plusieurs mois à prier, à jeûner. « Ô Dieu, viens aider ton peuple et ta ville sainte. » Il ressent un appel personnel pour retourner lui-même avec d'autres exilés, et il demande à Dieu de lui donner le courage pour demander à l'empereur un congé pour mener une expédition de reconstruction. C'est quand même risqué, vous ne trouvez pas? On va voir qu'un jour, une occasion pour demander au roi va arriver et il va en profiter. Et devinez quoi? Le roi va dire oui. Et la scène qu'on a lue, c'est un petit peu plus tard. Néhémie a formé son groupe. Il a reçu l'appui du roi. Il est maintenant à Jérusalem et il commence l'inspection, la planification de la reconstruction des murs. C'est ça qu'on a lu. Et comme j'ai dit tantôt, Néhémie est sensible à l'action et à la présence de Dieu durant tout ce temps de prière et d'action. Et je vais juste mentionner 3 ou 4 exemples de ça, qui sont des bons exemples pour nous. Alors, premièrement, Néhémie se met en prière. Je n'ai pas de diapo pour ça, excusez-moi, mais en tout cas, on va revenir à cette belle image. Néhémie, tout de suite, quand il entend les mauvaises nouvelles, il se met en prière. Puis je pense que ça, c'est simple, mais c'est un bon exemple pour nous. Et dans sa prière, il va exprimer ses vraies émotions à Dieu. Il va se couvrir de cendres. Et je pense que, si je me souviens bien, il va déchirer ses vêtements. Il exprime sa colère, sa tristesse. Mais ensuite, il se met dans l'intercession. Puis c'est une bonne leçon pour toi et pour moi. Il n'y a aucun problème contre-temps dans ta vie qui est trop grand pour que Dieu ne puisse pas intervenir, ne puisse pas l'utiliser à l'avantage de son plan. Et c'est ce qu'on voit dans la foi de Néhémie. C'est vraiment un bon réflexe qu'il a. Il se tourne vers la prière. Et ça se peut que toi, tu vas avoir un moment où tu n'as pas le goût de prier, tu es juste découragé. N'oublie pas, Dieu t'aime, Dieu est patient, mais prépare-toi à aller en prière et exprime tes émotions à ton Dieu. Ensuite, deuxième chose qu'on peut remarquer chez Néhémie, c'est le début de sa prière. Après qu'il a comme exprimé ses émotions, voici comment il commence sa prière. C'est quand même intéressant. Avant de dire « Dieu, viens », il dit « Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive. » Il n'a pas encore commencé sa prière, c'est un préambule, mais c'est vraiment important. Parce qu'avant de commencer à demander, Néhémie rappelle à Dieu et surtout à lui-même les vérités importantes sur qui Dieu est. Amen. Amen. La grandeur de qui il est. Juste cette, son nom éternel. Je suis le Dieu qui est. C'est ça que ça veut dire, éternel. En hébreu, c'est Yahvé. Dieu du ciel. Donc, la grandeur de Dieu. Il est au-dessus de mes circonstances, puissant, agissant. Et puis, il date de longtemps, parce que le ciel date de longtemps. Puis, sa bonté, sa fidélité. Tu conserves ton alliance, tu conserves ta bonté, tu es bon. C'est des vérités absolues sur toi. Et je le sais et je le dis en préambule à ma prière. Et puis, l'alliance, c'est aussi une promesse. Et Néhémie rappelle à Dieu ses promesses et sa fidélité. N'oubliez pas que Jérémie et Néhémie le sait, Dieu avait mis à cœur à Jérémie de prophétiser que les exilés allaient revenir et reconstruire. Et donc, Néhémie rappelle cette promesse, pas ici, mais un peu plus tard dans la prière. Néhémie se souvient. Et toi, quand tu pries, est-ce que tu te rappelles de ta théologie, c'est-à-dire de ta compréhension correcte et biblique de la grandeur de qui Dieu est? C'est pas compliqué. Si tu as une vision juste de qui Dieu est, ben, il est infiniment plus grand que ce que tu es en train d'imaginer. Alors, très important, ne rends pas Dieu plus petit de ce qu'il est. Son caractère, son plan, ses promesses. Est-ce que tu te souviens de ces choses? Lorsque tu prends le temps de t'en souvenir, ça va venir transformer ta prière pour la rendre puissante. Amen. Puis aussi, un autre point que Néhémie nous montre ici, il est sensible aux opportunités dans sa vie de tous les jours. Les circonstances de sa vie, il est attentif à ce que Dieu lui dit. Donc, on le voit. Un instant. Je suis rendu où exactement? C'est OK. En fait, ça, c'est ce que les responsables juifs lui disent. C'est « Levons-nous, mettons-nous au travail. » Donc, on voit que Néhémie a profité d'une occasion pour... il a prié, il est allé inspecter le travail à faire sans que personne sache. Et ensuite, il est allé parler aux responsables juifs. Et Dieu a ouvert la porte. Dieu lui a donné cette occasion et il en a profité. Mais je voudrais parler aussi de ce qui s'est passé avant avec le roi. Ça, c'était avant qu'il parte. Pendant sa période de jeûne et prière, il a demandé, « Dieu, donne-moi une opportunité. » pour parler au roi. Je sais qu'il faut que je lui demande. Et c'était plusieurs mois. Chaque jour, il servait le vin au roi. Et chaque jour, il voyait, le temps n'est pas propice. Je dois rester silencieux. Mais un jour, quelque chose arrive, puis c'est la main de Dieu qui est là-dedans, c'est que le roi lui pose une question. Il lui dit, Monsieur Léchanson ou Néhémie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle, pourquoi as-tu la mine triste? Pourquoi tu as l'air triste aujourd'hui? Et Néhémie a compris, ah, l'Éternel répond à ma prière, il me donne une occasion. Et donc, on dit, le texte dit qu'il a eu peur, il a prié dans sa tête, puis après, il dit au roi exactement la vérité. Je suis triste à cause de Jérusalem, qu'elle est en ruine, la ville de mon peuple, la ville de mon Dieu. Et c'était Dieu qui lui avait tapoté sur l'épaule. Vas-y, c'est le moment. Il a pris son courage à deux mains et il lui a fait la demande risquée. Est-ce que ce n'est pas un peu une invitation pour nous aussi d'être attentifs à des occasions? On parlait tantôt qu'on a de la misère à être des témoins dans nos familles et on priait pour ça dans la réunion de prière. Mais Néhémie nous donne un exemple ici. Prions, n'arrêtons pas de prier, soyons attentifs. Ça peut être pour d'autres choses aussi. Néhémie se laisse surprendre par l'empereur lui-même. Parce qu'il fait sa demande risquée. Et puis, il faut dire que déjà, c'était miraculeux parce qu'un empereur, à cette époque-là, n'était pas supposé demander des questions personnelles à ses serviteurs. C'était considéré comme un signe de faiblesse. Il le fait quand même. Et puis, l'empereur va répondre à la réponse de Néhémie d'une manière vraiment surprenante. Il lui dit, « Ben, tu as besoin de quoi pour régler ton problème? » C'est comme s'il disait, « Je vais sortir mon chéquier. Qu'est-ce que tu voudrais que j'écrive? » Ensuite, Néhémie, il pousse encore plus loin. Il dit, « J'ai besoin d'aller avec une délégation et puis des lettres signées par vous pour dire que vous appuyez notre projet de reconstruction. » Puis là, l'empereur pose une autre question incroyable. « Mais tu as besoin d'un congé de combien de temps? » Et Néhémie lui dit. Alors, vous voyez comment il y a un miracle, mais c'est dans le cœur de l'empereur. Hein? Comme dit le proverbe ici, « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » C'est beau, hein? Oui. Donc, toi qui fais face à des problèmes, et souvent, on a des problèmes par rapport à d'autres humains. Et souvent, on a des problèmes que les autres humains peuvent aider à régler. Le cœur de ces humains sont des courants d'eau dans la main de l'Éternel. Soyons patients. Soyons patients. Dieu a un plan. Et Dieu veut t'impliquer dans son plan. Je vais conclure maintenant. Merci de m'avoir écouté tout le long jusqu'à date. La prière dit « Viens, Seigneur, viens. » Soyons confiants, mes amis. Même si Dieu est silencieux, il est déjà là dans ton défi, dans ce que toi, tu es en train de construire. Il est déjà à l'œuvre. Il veut que tu le pries, que tu le supplies. Et oui, il est puissant pour intervenir au moment voulu par lui. Quand il intervient, il va te montrer qu'il prépare cette chose depuis longtemps. Et c'est merveilleux. Et ça nous amène dans l'adoration, le remerciement, la louange. Pour terminer, parce que c'est sûr, je vous demande de réfléchir à ça alors que vous priez pour vos requêtes cette semaine et pour les requêtes de l'Église, de l'Alliance chrétienne et missionnaire, vos familles. Ayez confiance et souvenez-vous de ce psaume, le début du psaume 127 qui nous rappelle tout ce que je viens de dire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est pas pour vous décourager. Moi, je suis confiant que la maison, entre guillemets, que tu es en train de construire, c'est Dieu qui est en train de la construire. Puis s'il y a un élément où tu te trompes, il va te montrer. Il va te montrer. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Bien-aimé, écoute bien cela. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour l'histoire de Néhémie. Et on a juste vu une petite partie. Mais merci parce que par Néhémie, nous nous souvenons que quand nous te prions pour venir dans notre situation, tu es déjà là en train de préparer les choses et tu nous demandes de reconnaître par la foi, par la confiance, ta présence, tes préparatifs, ton action. Oh, aide ma sœur ce matin, aide mon frère ce matin dans son combat de prière pour tel ou tel projet, tel ou tel problème. Oh, Père, oui, apprends-nous à devenir plus comme Néhémie. Nous prions au nom de Christ. Amen.